Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, je reçois Fabrice d'Almeida, directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, pour un nouveau portrait d'aventurier. Vous avez choisi cette fois, Fabrice, Éric Tabarly. Qui était Éric Tabarly ? On sort là, si vous me permettez, des années 20, des années 30, que nous avons beaucoup étudié dans cette émission, pour cette fois être beaucoup plus contemporain.
Oui, il y a une espèce de mythologie de l'aventure dont certains auteurs comme Sylvain Venner ont parlé pour la fin du 19e siècle, entre deux guerres, mais qui évidemment est une mystique qui se poursuit et qui va nourrir notre époque. Et Tabarly, il est assez révélateur de ça, c'est un marin, un navigateur, et peut-être un des navigateurs français les plus connus, avec un palmarès absolument extraordinaire, vainqueur de transat en solitaire, vainqueur de Tour du Monde, vainqueur de transat en double, vainqueur, bref, d'une quantité étonnante de courses. Donc véritablement, l'un des marins français les plus importants dans l'ancrage de ce sport en France.
Alors, comment arrive-t-il à la voile, au fond ?
Ben, on peut dire par sa famille. Bon, évidemment, c'est un Breton. Et puis, il a un père qui est un voilier, qui s'appelle le Pendwick, et dont il va lui demander la possibilité de l'utiliser. Il va s'en servir, puis le bateau va être échoué, il va être obligé de le renflouer, puis de l'améliorer. Et finalement, il va garder ce nom, Pendwick. Hein, c'est en gros une mésange à tête noire. Et donc, il va garder ce nom pour les vaisseaux qu'il va construire par la suite. Donc, il y aura le Pendwick 2, le Pendwick 3, le Pendwick 4, le Pendwick 5 et le Pendwick 6, avant que finalement il ne finisse sur un dernier bateau qui était le Paul Ricard, hein, qui était un trimaran. Et donc c'est comme ça qu'il vient à la voile, j'allais dire par famille, par région aussi. Et puis il a une ambition visiblement qui est de gagner des trophées par la voile. C'est-à-dire qu'il est lui déjà dans les années 50. Faut bien replacer ça dans le contexte. Il est lui déjà dans l'idée qu'il va faire ou des croisières ou des courses, et plutôt des courses.
Mais c'est une nouveauté, cet engouement pour la voile. C'est lui qui est l'initiateur de l'engouement que l'on retrouve aujourd'hui à travers la Route du Rhum et bien d'autres compétitions.
Oui, il me semble. Alors, il y a différents niveaux. Il y avait bien sûr déjà des régates, c'est pas la question. Mais là, ce dont on parle, c'est véritablement de l'engouement populaire. C'est-à-dire l'idée que les grandes traversées de voile, les grandes courses deviennent quelque chose qui retient l'attention de l'opinion pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs jours. Parce que c'est quand même ça qu'il y a d'extraordinaire dans la voile, c'est de penser que quand il y a des courses comme ça, la transat en double, la route du Rhum, quand il y a certaines de ces grandes courses, bien les Français, et au-delà évidemment les Anglais et les Américains, vivent au rythme de ces grandes traversées. Et ils attendent une semaine, deux semaines, trois semaines, parfois plus, de savoir qui va l'emporter. Ils écoutent les flashs, ils écoutent... Et cet engouement-là, au fond, on peut dire que c'est véritablement avec le Tabarly des années 60 que ça démarre. Alors, quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a tellement envie de rentrer dans la marine qu'on pourrait croire au départ que c'est d'abord et avant tout et seulement un marin. Mais en réalité, il rentre dans l'aéronavale en 1952.
C'est un militaire.
C'est un militaire et surtout, c'est un militaire aviateur. Ce qui est dire qu'il commence par passer son brevet de pilote, il commence par faire des heures de vol, il va voler au Vietnam, hein, ça va être une de ses premières affectations, il va quitter le Vietnam en 1956, et finalement il va faire naval, il va sortir aspirant, il va servir sur le Castor à Cherbourg, un remorqueur, et puis il va être affecté au port de Lorient, et donc pendant cette période-là, avec le soutien de l'armée, avec dans les arsenaux, il construit un premier navire qui est le Pendwick 2, qui est déjà un navire, je dirais, qui révèle ses qualités d'entrepreneur sportif, c'est-à-dire qu'il va chercher un matériau léger qui lui permette d'avoir une coque à la fois solide mais en même temps assez légère pour pouvoir véritablement flotter en offrant le moins de résistance, avec toute une logique de profilage de la coque, etc. Donc avec un contreplaqué léger, c'est technique peu coûteuse, qui va être ensuite utilisée dans la marine de plaisance. Hein. Il faut y penser, ça va avoir des incidences. C'est comme si on était dans la recherche Ouais, et qu'ensuite, on allait avoir les retombées du point de vue du grand public.
On l'a vu à travers nos portraits d'aviateurs. Il existe toujours un lien entre sport, d'une part, et aventure, bien évidemment, et science.
Oui, avancée technique, amélioration des techniques de compréhension, grâce à ces hommes qui sont en fait des praticiens et qui sont capables ensuite de donner aux théoriciens, de donner aux fabricants, qui sont capables de leur rendre en quelque sorte presque des pilotes d'essai. Et là, pour la mer, Tabarly, c'est un peu la pointe du pilote d'essai. Il a en tête le modèle qui va lui permettre de gagner du temps, de gagner de la glisse, d'aller plus vite et donc de prendre mieux le vent. Et donc, c'est comme ça qu'il a l'idée de faire ce Pendwick 2 avec lequel, en 1964, il va tenter et il va réussir. Un exploit assez, assez phénoménal, hein, qui est une transat en solitaire. Et il faut penser qu'il va se retrouver donc, à traverser l'Atlantique seul. Et c'est ça qui est extraordinaire. 10 jours. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est à l'époque, hein, on est 2 ans après la crise des missiles de Cuba, en 1962, dans lesquels, en gros, l'enjeu, c'est de savoir qu'une bombe pourrait tomber sur les États-Unis, un missile pourrait tomber sur les États-Unis, en quoi ? Allez, en une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est ça l'ordre grandeur. On compte en minutes à cette époque-là. Quand on commence à compter en heures, voire en dizaines d'heures, on a pratiquement fait le tour de la planète avec des avions en réaction. Et là, tout d'un coup, il s'agit de battre un record, mais un record qui se compte en jours. Et ça, je trouve que c'est l'aspect extraordinaire que Tabarly va réussir à faire rentrer dans l'esprit, c'est qu'on peut avoir un rapport au temps complètement différent dans la performance. De la même manière qu'on va avoir ensuite des gens qui vont essayer ces exploits de traverser de l'Atlantique à la rame, où là encore, ça va se compter en semaines. Donc, vous voyez, ce rapport assez curieux au temps. D'un côté, on contracte la planète, et de l'autre côté, on crée les conditions pour rendre l'exploit suffisamment difficile pour qu'il dure et pour qu'en quelque sorte, il fasse émerger autre chose de la grandeur de la nature humaine.
Est-ce qu'on retrouve à cette époque une politique, j'allais dire, disons-le, gaulliste sur le sport? Est-ce qu'il participe de ce mouvement du gaullisme en faveur du sport?
Oui, je crois que ça commence à puiser ses racines sous la 4ème République, mais c'est clair qu'il y a une dimension du gaullisme qui veut développer un certain nombre de sports, qui va essayer de privilégier, on pourrait dire, des sports qui correspondraient à une culture française. C'est pour ça que je crois que la voile va être soutenu, c'est pour ça que Tabarly va être mis à disposition pour être en quelque sorte le navigateur à la voile français performant. Ce qui fait qu'il réussit des choses extraordinaires, hein, traverser du Pacifique en 39 jours, 5700 milles. Donc il faut penser à ça. Hein. Il y a cette dimension-là, il y a d'autres sports qui vont être privilégiés au moment de Grenoble, au moment des Jeux Olympiques évidemment, et dans la préparation des Jeux Olympiques, on privilégie le ski. Parce qu'effectivement, on pense qu'il y a cette dimension. Et à chaque fois, dans le sport gaulliste, il y a la pointe, l'élite, mais il y a l'idée qu'ensuite, ça va avoir des retombées sur le grand public, des retombées populaires. Donc, on fait les installations sportives en 68, on développe une élite de skieurs français qui va devoir attirer l'attention. Mais derrière, évidemment, ce qu'il y a, c'est le tourisme de masse, le ski de masse qui va se développer dans les années suivantes. Pareil pour la voile. On a Tabarly qui fait cela, on va avoir les créations d'écoles de voile et on va avoir évidemment la création de petits bateaux. La caricature presque de ça, vous vous souvenez de ce film Robert Derry et Louis de Funès, Le Petit Baigneur, Le Petit Baigneur 1968. Vous voyez, on est en plein dedans, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a ces performances, ça attire l'attention du public, ça donne envie et ensuite il faut créer les petits modèles pas chers qui vont permettre à tout le monde de pratiquer du sport. Dans un sens, il y a un sport pour qui ça ne va pas marcher, c'est l'escrime. Parce qu'on va privilégier, on va essayer de pousser au maximum l'escrime, de la moderniser, mais on ne va pas arriver à en faire le sport absolu de masse qu'on pouvait espérer. Ça restera toujours des fédérations à 100 000, 200 000 licenciés.
On a parlé des techniques, hein, des techniques maritimes. Il se distingue sur les techniques de voile, les techniques de navigation.
Alors, disons que sa grande capacité, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'il sent les évolutions techniques qui sont à l'œuvre à l'époque. Il y a évidemment les choix de route pour lesquels il va se montrer parfois extrêmement habile. Mais c'est surtout qu'il arrive à devancer, en quelque sorte, les conditions des courses qui vont se développer. Alors, je m'explique, ça peut paraître abstrait, dit comme ça. Mais chacun des vaisseaux qu'il va construire va être un vaisseau d'avancée technique qui lui permet d'avoir des performances supérieures aux autres sur mer. Alors, par exemple, si on veut prendre peut-être l'exemple le plus révélateur, je parlais de sa traversée du Pacifique en 69 avec le Pendwick 5. Le Pendwick 5, c'est un bateau qui lui permet pratiquement de gagner avec 11 jours d'avance sur le deuxième.
Pourquoi?
Parce que le Pendwick 5, est un monocoque qui bénéficie d'un système de ballast qui lui permet d'avoir un plus faible lest, donc de gagner en légèreté, d'avancer plus vite et d'être mieux équilibré grâce à des réservoirs d'eau qui lui permettent de compenser le gîte. Vieille technique, le ballast, mais en même temps qu'il a su adapter, qu'il a su mettre dans son voilier.
C'est proprement extraordinaire, hein, cette implication dans l'invention. Mais là, vous parlez de monocoque, alors que Tabarly est également l'homme des multicoques.
Oui, et ça va commencer assez tôt, puisque dès le Pendwick 4, il commence à avoir l'idée qu'avec le système des multicoques, on va pouvoir avoir une meilleure flottaison et en quelque sorte donner moins de prise et donc aller plus vite. Donc c'est une première chose avec l'utilisation de l'aluminium pour essayer d'avoir des structures légères. Et au fond, c'est ce qui va lui permettre d'anticiper et d'avoir cette capacité à créer le voilier qui va être peut-être dans l'avenir le plus performant en termes de décollage de l'eau. J'utilise ce terme exprès, c'est le Paul Ricard qui est un trimaran, avec l'idée qui va être ensuite exploitée avec les foils, qu'une fois que le bateau prend un peu de vitesse, il va être allégé, placé sur ses appuis latéraux, et avec ça, et donc, il a très peu de résistance dans l'eau. Et c'est ce qui lui permet de gagner extrêmement rapidement, de battre le record du monde de traversée de l'Atlantique, qui datait de 1905, hein, c'était le vieux record de Charlie Barr. C'est ça qui va lui donner cette avance extraordinaire, et avec un bateau qui aura coûté extrêmement cher et qui est sponsorisé par Paul Ricard.
Alors justement, l'époque est marquée par l'arrivée des sponsors. On parle beaucoup des sponsors dans le football et de l'argent du football, mais le sponsor arrive avant, au fond, dans le domaine de la voile.
Oui, il y a cette espèce de basculement que signifie au fond le passage du Pendwick 2 jusqu'au Paul Ricard. C'est qu'à un moment donné, cette marine qui était une marine qui était soutenue, on va dire, par le public, où il y a une logique de soutien d'État, eh bien ça devient l'enjeu d'un sponsoring extrêmement important par de très grandes entreprises. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées là-dessus. Première hypothèse, c'était qu'un certain nombre de grands patrons étaient amateurs de voile, c'est-à-dire qu'eux-mêmes pratiquaient ce sport, ils avaient une admiration éperdue pour ça, et donc ils étaient prêts, même si ça n'avait pas forcément les plus grandes retombées médiatiques, ils étaient prêts à investir là-dedans par goût du défi, par goût du challenge. Mais évidemment, l'autre aspect, c'est que la voile, ça dure plusieurs jours. Donc si vous sponsorisez un voilier et que vous avez un produit qui peut bien s'associer avec cette image-là, eh bien vous avez des retombées médiatiques extrêmement fortes en termes d'information et en termes de retour en quelque sorte sur investissement. Et c'est clair que le voilier qui s'appelle Paul Ricard, plus tard il y en aura d'autres qui auront d'autres noms, eh bien évidemment, ça permet à cette entreprise d'avoir régulièrement, aux heures de grande écoute, au moment où on est devant la télévision, en famille, d'avoir un impact publicitaire tout à fait fort pour un produit qui est un produit de consommation courante. Donc véritablement, c'est le moment où ce sport de voile devient un sport marqué par, pas les transferts comme le football, mais l'investissement extrêmement important de sponsoring, ce qui fait que les bateaux coûtent cher, de plus en plus cher, donc il va falloir des entreprises de plus en plus importantes, une implication toujours plus grande.
Est-ce qu'il a inspiré, vous parliez du multicoque, est-ce qu'il a inspiré des grandes compagnies maritimes qui ont pu utiliser ces types et ces techniques de bateaux?
Oui, bien sûr. Et puis, il a aussi influencé des entreprises de fabrication de bateaux. Par exemple, toute la série des First qui a commencé à être mise en place à partir de 1974, c'est directement inspiré de voiliers qui ont été dessinés par Tabarly. Donc, il y a effectivement à la fois le côté navigation commerciale, le côté loisir, et puis évidemment, l'autre dimension qui est qu'il a formé aussi une génération de marins. Parce qu'on l'oublie, mais il est celui qui est légèrement en avance. On pourrait dire que c'est un peu le grand frère des Kersauzon, Alain Colas, Titouan Lamazou, dont une partie d'entre eux d'ailleurs a été homme d'équipage chez Tabarly, avant à leur tour de se lancer dans l'expérience. On pourrait presque dire qu'il a créé les conditions pour qu'il puisse y avoir des championnats en quelque sorte, et des champions en France de très haut niveau, et qui puissent se hisser à la hauteur des grandes écoles de voile internationales, australiennes, américaines et autres.
Alors nous sommes au 6e ou au 7e portrait d'aventurier. Quasiment aucun aventurier est mort dans son lit, peut-être si l'aviatrice allemande. Bon, Tabarly, lui, n'est pas mort dans son lit.
Oui, c'est une fin assez curieuse, puisqu'il part faire c'est de la navigation de plaisance, pratiquement. Il part avec des amis sur son bateau. Et donc, le 13 juin 1998, il disparaît en mer. On retrouvera son corps 3 semaines plus tard. Donc, un accident un peu étonnant par un soir de brume.
même les professionnels ne sont jamais à l'abri d'un accident de genre.
Oui, et ça montre qu'en fait, là où on a le sentiment qu'à chaque fois il s'agit de records techniques, qu'il s'agit en quelque sorte d'un objet qu'on maîtrise, qui serait la mer, et ben en fait non. Jusqu'au bout, ça reste quand même un élément et ça rapporte le danger.
Ouais, le facteur humain est très important. Nous n'avons jamais évoqué l'humilité à travers tous nos portraits d'aventuriers. Est-ce que c'était des hommes humbles ?
Moi, je trouve très juste ce que vous venez de dire, surtout pour quelqu'un comme Tabarly. Parce que Tabarly n'est pas quelqu'un qui parle... Enfin, on en a fait beaucoup, le héros du silence, l'espèce de père comme ça, un peu bougon, qu'on imagine. C'était pas tout à fait ça. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une parole extrêmement maîtrisée, une certaine timidité, et pas du tout l'arrogance qu'on peut voir parfois chez certains athlètes comme ça, qui sont dans une espèce d'excitation du moment. Et donc, on a vraiment l'impression que lui, il y a l'humilité, mais l'humilité qui est la contrepartie du défi qu'il lance aux éléments. C'est-à-dire, quand on est face à la mer... Le défi qu'on peut essayer de porter à ce moment-là ne peut pas se jouer uniquement dans l'arrogance. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le capitaine Ahab paye peut-être son excès d'arrogance.
Alors après les airs et les aviateurs, après la mer et le marin, eh bien, nous essaierons, Fabrice, d'aller vers la montagne à la découverte d'un alpiniste. Merci beaucoup, Fabrice.
Merci à vous.
Et à très bientôt.